Nous ouvrons nos Bibles cet après-midi dans l'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 2, versets 20 et 21. Galates chapitre 2, versets 20 et 21. Voilà les paroles que nous laisse l'apôtre Paul, et c'est son propre témoignage. Il nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Cet après-midi, je voudrais vous inviter encore une fois avec moi à retourner sur ce rocher du crâne, appelé en hébreu le Golgotha, pour considérer encore une nouvelle fois le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Le titre de cette prédication maintenant est « Le sang et la croix ». Et plus exactement, la puissance du sang de Jésus et la puissance de la croix. Élevé sur la croix à Golgotha, nous croyons que Jésus attire tous les hommes à lui. Et la croix est devenue ainsi le lieu décisif de notre foi et de toute rencontre avec Dieu. Pourtant, nous pourrions nous interroger, qu'y a-t-il d'attirant à Golgotha? Qui voudrait y dresser une tente? Ce n'est point un lieu de repos, ce n'est point un lieu dans lequel on souhaite s'établir. Et dans la Bible, il est même écrit, c'est un peu le témoignage des hommes. Mais la croix, c'est un scandale. La croix, c'est une folie. Mais nous, nous voulons témoigner de ceci. La croix est une démonstration de puissance de Dieu à l'égard de tous les hommes. Mais certains diront, la croix, une démonstration de puissance? Où est-elle donc cette démonstration de puissance? Cela ressemble plutôt à une défaite. Et peut-être qu'à première vue, le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas vraiment l'apparence d'une démonstration de puissance. Pourtant, il nous faut entendre le message de l'Évangile et découvrir ce qu'il en est exactement. Nous croyons que la puissance de Dieu se manifeste à la croix, à travers la croix. Et particulièrement, je voudrais considérer ces deux puissances. La première est la puissance du sang et la deuxième est la puissance de la croix. Ces deux puissances sont déterminantes pour notre vie, elles sont complémentaires et elles sont progressives. La première puissance, la puissance du sang, concerne ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est le seul moyen d'atteindre Dieu, la connaissance du sang de Jésus. Et la seconde puissance concerne les croyants, les disciples de Christ. Et souvent, la puissance de la croix n'est pas connue, voire mal comprise et mal expérimentée. Dans le langage de la Bible, dans le langage théologique même, nous disons que la puissance du sang, c'est une puissance de médiation. Parce que la puissance du sang restaure la relation brisée par le péché avec Dieu. Et nous disons que Jésus est mort pour nous. Il est mort à notre place, c'est la substitution. Il s'est chargé de nos péchés, il a expié nos péchés. Et puis nous parlons de la puissance de la croix. Et la puissance de la croix fait référence à l'identification, notre identification en Jésus. Non plus seulement Jésus est mort pour nous, mais nous sommes morts en Jésus. La connaissance de la puissance du sang de Jésus est une connaissance fondamentale. Et je m'empresserai tout de suite de vous poser cette question. Avez-vous goûté à la puissance du sang de Jésus? C'est une connaissance indispensable. Car seule la connaissance de la puissance du sang de Jésus nous assure de la vie éternelle. Alors pourquoi le sang? Il est dit dans le Deutéronome que la vie est dans le sang. Et quand nous parlons de Jésus, quand nous parlons de son sang, nous parlons de sa vie. Et si nous parlons du sang ou de la vie de Jésus, nous ne faisons pas la référence à un simple sang humain ou une vie humaine, mais la qualité de la vie de Jésus, la qualité du sang de Jésus sont uniques. Il est le Fils de Dieu. Oh, c'est vrai, bien sûr, Dieu n'a pas de sang. Dieu est esprit, mais il a donné sa vie à Jésus, son Fils. Si nous parlons de la qualité du sang de Jésus, nous pouvons aussi parler de la valeur du sang de Jésus. C'est un sang pur. La pureté du sang de Jésus. Une vie qui n'a pas été marquée par le péché. Alors quand je parle ainsi d'un sang pur, je ne parle pas au sens physiologique, mais au sens spirituel, bien entendu. Et à cause de sa qualité, à cause de sa valeur, nous pouvons parler de la puissance du sang de Jésus, qui est une puissance de rédemption. Au moyen du sang de Jésus, Dieu nous rachète. Dieu nous pardonne. Et c'est là qu'il nous faut comprendre que si le sang de Jésus a une efficacité, a une puissance particulière pour nous, c'est d'abord parce qu'elle a une puissance auprès de Dieu. Dieu a approuvé le sacrifice de Christ. Dieu accorde sa validation, son efficacité au sang de Jésus. L'apôtre Paul écrit dans Romains 3, 25, « C'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime expiatoire. » Par son sang. Par son sang, Jésus a expié nos péchés. Nous n'avons pas à essayer de nous racheter par nous-mêmes. Dieu n'accepte rien d'autre que le sang de Christ. Ni l'argent, ni l'or, ni les traditions, ni la religion, ni les œuvres de bienfaisance ou toute autre chose n'ont la valeur du sang de Jésus. Et rien que le sang de Jésus peut expier nos péchés. Mais le sang de Jésus a aussi cette puissance d'apaiser la colère de Dieu. C'est là un concept qui échappe à l'homme moderne, qui refuse d'entendre parler de la colère de Dieu. Mais la Bible nous dit bien qu'il existe une colère de Dieu à l'égard de l'injustice, à l'égard de l'impiété, à l'égard du péché de l'humanité. Et la puissance du sang de Jésus, c'est une puissance d'apaisement. Le sang de Jésus présenté à Dieu apaise la colère de Dieu. Et Dieu approuve le sacrifice de Christ. Et à cause du sang de Jésus, la grâce divine est déclenchée. La grâce divine se manifeste. Dieu veut faire grâce à tous les hommes. Mais le seul lieu pour rencontrer la grâce de Dieu, c'est la croix de Golgotha. La grâce divine n'est pas accessible sans passer par la croix. Et parce que la puissance du sang de Jésus a une valeur aux yeux de Dieu, alors elle a une efficacité concernant nos vies. Et le sang de Jésus est un sang de recouvrement de nos péchés. Dans l'ancienne alliance, au temps des sacrificateurs, on offrait des animaux en sacrifice, en holocauste à Dieu, et leur sang était répandu pour couvrir les péchés. Mais Dieu nous a donné bien plus, il nous a donné Jésus. Et si le sang des animaux pouvait couvrir nos péchés, à bien plus forte raison, celui de Jésus peut couvrir tous nos péchés. Parce qu'il a été approuvé par Dieu. Et la conséquence de cela, l'Épître aux Hébreux nous le dit au chapitre 8, verset 12, « Dieu parle, je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Lorsque le sang de Jésus recouvre nos péchés, Dieu oublie. Dieu oublie tous tes péchés, tous nos péchés. Mais il y avait une chose que le sang des animaux ne pouvait pas faire, c'était purifier la conscience. Et le souvenir des péchés demeurait. Mais le sang de Jésus a cette vertu, cette efficacité, que non seulement il couvre les péchés, mais il nous purifie intérieurement. Et le souvenir même de ces péchés est maintenant effacé. Notre conscience est renouvelée devant Dieu. Et nous pouvons librement remercier le Seigneur. À cause de la puissance du sang de Jésus, Dieu déclare juste ceux qui croient en lui. Une déclaration de justice dans laquelle Dieu sait parfaitement qu'il déclare juste des hommes et des femmes qui sont injustes, qui sont pécheurs. Il n'ignore rien de notre vie, il n'ignore rien de notre passé, même de notre présent. Mais à partir du moment où nous plaçons notre foi dans la puissance du sang de Jésus, Dieu nous déclare juste. Et à cause de cela, nous sommes réconciliés. Voilà aussi la puissance du sang de Jésus, il nous réconcilie avec le Père. L'apôtre Paul écrit dans Colossiens 1:20, Dieu a fait par lui la paix, par le sang de sa croix, et nous a réconciliés avec lui. À cause du sacrifice de Christ, à cause du sang de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et bien plus, dans l'amour et dans la paix, nous pouvons l'appeler notre Père. Voilà l'efficacité du sang de Jésus. Cette vie qui nous est donnée, qui nous libère du péché et qui nous permet de nous approcher de Dieu sans crainte de jugement ou de condamnation, mais simplement avec des paroles de reconnaissance et de louange. Alors, l'expérience du sang de Jésus est donc incontournable. Elle est indispensable pour votre vie. Et je voudrais vous dire aussi qu'elle est suffisante pour que vous soyez pardonnés de vos péchés et recevoir aussi l'assurance de la vie éternelle. Avez-vous goûté à la puissance du sang de Jésus? Avez-vous découvert cette puissance extraordinaire que Dieu veut vous accorder cet après-midi si vous voulez la recevoir? Alléluia! Mais je voudrais vous dire qu'il y a encore bien plus à Golgotha. Oui, le sang de Jésus a la puissance de nous racheter, de nous laver de tous nos péchés. Mais maintenant demeure une question. Qu'en est-il de la racine même du péché? Et d'abord, il nous faudrait nous interroger sur quelle est cette racine. Eh bien, il ne faut pas chercher très loin. Il ne faut surtout pas chercher dehors. Chercher quelqu'un qui serait à l'origine. La racine même du péché, c'est ma vie passée. C'est moi-même, c'est ma propre nature qui est pécheresse. J'ai trouvé cette image qui nous permettra, je pense, de comprendre mieux les choses. Pensons à une usine chimique. Connaissez-vous les... Avez-vous entendu parler des usines appelées usines Seveso, qui font référence à un accident chimique qu'il y a eu dans les années 70, je crois, en Italie, une usine donc Seveso, et qui a contaminé une grande partie de son environnement. Et sont donc appelées aujourd'hui usines Seveso, des usines avec un grand risque pour l'écologie et pour l'environnement. Elles traitent des produits hautement toxiques. Le sang de Jésus nous débarrasse de tout le stock encombrant dans notre vie, tout le stock toxique du péché. Mais qu'en est-il de l'usine? Parce que nous comprenons que l'usine Seveso qui produit les péchés, c'est ma vieille nature. Alors comment est-ce que nous allons traiter cette usine? Avec le langage moderne, justement, on dira on va essayer de la décontaminer. On va essayer de restaurer les choses. Et alors certains parlent des moyens de la philosophie, des moyens on pourrait dire presque de l'amélioration personnelle, self-improvement, essayer de redonner vie à tout ça. Mais je voudrais vous dire que l'usine est tellement corrompue que quels que soient les traitements qu'on veut faire, rien n'y fera. Alors peut-être pourrions-nous essayer une autre méthode, la méthode du sarcophage. Vous avez déjà entendu parler, vous voyez à quoi je fais référence? Non plus à une usine chimique, mais à une centrale nucléaire qui a explosé. Alors on essaye de bâtir un immense sarcophage pour retenir les radiations. Et ce sarcophage me fait penser à la religion, où la religion essaye de bâtir un sarcophage de commandements, de lois, de pratiques à faire pour essayer d'étouffer cette vieille nature pécheresse qui est en nous. Mais cette nature pécheresse provoque tellement de radiation qu'il n'existe aucun sarcophage qui soit suffisamment épais pour contenir et retenir les radiations. Alors si l'on ne peut pas traiter, si l'on ne peut pas décontaminer, si l'on ne peut pas enfermer cette usine, il ne reste plus qu'un moyen. Un moyen qui est radical, c'est celui de la raser et de la détruire complètement. Et c'est le message de l'Évangile. C'est vrai que c'est un message impressionnant. Le message de l'Évangile est de nous dire que le seul moyen pour redémarrer quelque chose avec nous, qu'a trouvé le Seigneur, c'est d'arrêter ce que nous sommes, de mettre à mort ce que nous sommes. Nous sommes rentrés dans cette vie humaine par la naissance, nous ne pouvons en sortir que par la mort. Nous avons reçu cette vieille nature humaine, pécheresse, toxique, par la naissance, nous ne pourrons en sortir que par la mort. Mais ici, je ne suis pas en train de parler, peut-être certaines personnes qui sont là au milieu de nous pour l'une des premières fois s'étonneraient de ce genre de langage, le trouveraient extrémiste, alors je veux bien le resituer pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous ne sommes pas en train ici de parler de messages, d'espèces de suicide pour essayer d'atteindre une autre dimension cosmique ou tout ce que vous voulez. Nous parlons d'un langage spirituel, les choses spirituelles pour un langage spirituel. Et c'est ici, en tout cas, qu'intervient la puissance de la croix. Il y a eu la puissance du sang pour régler le stock toxique, et il y a maintenant la puissance de la croix pour traiter la racine même du péché, c'est-à-dire notre vie. Quelle est donc l'efficacité de la croix? C'est avant tout une puissance de délivrance. Non pas des démons, non pas des péchés, mais de ce qui nous ennuie le plus, c'est-à-dire notre vieille nature. Parce que c'est ça notre souci numéro un. C'est ça notre ennemi numéro un, notre vieille nature. Et si elle se propose de nous en délivrer, c'est afin de nous renouveler. Le sang de Jésus couvre nos péchés, nous rachète de la puissance du malin, nous délivre de la colère divine. Mais seule la puissance de la croix nous délivre de nous-mêmes. Nous délivre de la racine même du péché pour une vie nouvelle. Et alors je fais un constat. Et je constate que beaucoup de chrétiens ont quitté trop vite Golgotha. Seigneur, merci pour le pardon des péchés. Merci de ce que tu me fais grâce. Merci de ce que tu me relèves. Et puis, ils sont partis. Ils sont partis trop vite. Et parce qu'ils ont quitté trop vite ce rocher de Golgotha, eh bien, pendant toute leur vie, ils vont souffrir. Ils vont souffrir de quoi? De souffrances intérieures qui sont dues à la chair, à la puissance de la chair qui continue d'agir en eux, de ce caractère qui ne cesse de combattre contre leur volonté, de ces choses qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Ils sont chrétiens, ils aiment le Seigneur, ils ont même l'assurance du salut parce qu'ils ont goûté à la puissance du sang de Jésus, mais ils n'ont pas le parfum du Saint-Esprit. Et leur vie chrétienne, c'est un peu comme une marche dans le désert. Et alors, permettez-moi de vous adresser cette question majeure. Êtes-vous crucifié en Jésus? Par la puissance du sang de Jésus, nous sommes pardonnés, lavés de nos péchés, libres du monde et de Satan. Mais par la puissance de la croix, et seulement par la puissance de la croix, nous pourrons dire, comme Paul le disait, « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Voulez-vous pouvoir dire aussi « Christ vit en moi » Alors il vous faut d'abord goûter à la puissance de la croix. La puissance de la croix et le message de la croix est donc un message radical. C'est un message sans concession. Et c'est un message qui nous interpelle puissamment. Et il nous faut considérer au moins trois choses. Et la première d'entre elles, c'est une prise de conscience. À un moment de sa vie, l'apôtre Paul nous dit ceci dans Romains 7, 24. Il s'est certainement tourné vers Dieu et il a poussé un cri vers lui, lui disant « Seigneur, mais je suis un misérable. Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Cet homme voulait mener une vie qui plaise à Dieu. Il voulait marcher dans la sainteté. Il voulait marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu. Il y avait dans son intelligence une loi qui était en accord avec la volonté de Dieu. Mais il trouvait aussi dans sa vie, dans son corps, dans ses membres, une autre loi qu'il appelle la loi du péché. Et il dit que cette loi du péché le poussait à agir contre la loi de son intelligence. Et toutes les choses qu'il voulait faire pour plaire à Dieu, il n'arrivait pas à les faire à cause de cette autre force qui était en lui. Et agacé par tout cela, peut-être ayant lutté, essayant de prendre des décisions, essayant de se contraindre, de se discipliner, mais n'arrivant pas à atteindre son objectif, étant toujours dominé dans l'échec, il va finir par se tourner vers Dieu dans ce cri d'angoisse et de désespoir. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et nous avons besoin de cette prise de conscience. Avez-vous, dans votre cœur, le désir de crier comme cela à Dieu? Où en êtes-vous encore au point d'essayer de trouver un compromis, un équilibre, en vous disant, bien, c'est comme ça, l'homme est ainsi fait, alors on essaie de trouver une voie médiane, essayer un peu de slalomer entre les écueils, mais on sait qu'on n'arrivera pas tous à les éviter. Et tant qu'on se dit qu'on peut rester dans une situation de compromis, alors on n'est pas prêt, comme l'apôtre Paul, à dire « misérable que je suis ». Mais la vraie délivrance, elle passe par là. Seigneur, libère-moi du corps de cette mort. Libère-moi de ça, parce que les racines même du péché sont dans ma vie. Et c'est alors que nous entendons encore une fois l'apôtre Paul qui nous parle d'une justice, non pas simplement de la justice de Jésus-Christ pour nous, mais il nous parle de cette justice qui consiste à offrir nos vies à Dieu. Il écrit « offrez vos corps ». Comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Livrez vos membres à la justice de Dieu. Ce n'est plus Jésus qui livre son corps à la croix, mais c'est nous qui nous livrons à Dieu dans cette offrande de justice. Et l'image la plus simple que j'ai pour vous faire comprendre les choses, parce qu'un jour ça m'a beaucoup parlé à moi aussi, toute la différence est là. Qu'avez-vous donné au Seigneur ? Lui avez-vous donné votre cœur ou votre corps ? Et je vais vous dire, beaucoup dans l'Église, et trop malheureusement, se sont contentés de donner leur cœur. « Seigneur, je te donne mon cœur. Je donne mes pensées, mes sentiments, c'est vrai. » Et le cœur, il est la source même de la vie. Mais l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, nous dit « Non, c'est le corps qu'il faut donner. C'est le corps tout entier. Livrer toute sa vie. » Autrefois, ce corps qui était livré au péché, livré à toutes sortes de choses dont nous avons honte aujourd'hui, nous le donnons à Dieu pour qu'il serve son royaume. Mais cette volonté de nous offrir à Dieu doit être semblable à celle d'Abraham qui a conduit son fils Isaac sur le rocher pour l'offrir à Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Et il savait que lorsqu'Abraham a conduit Isaac sur ce mont Morija, ce n'était pas pour semblant. Ce n'était pas une demi-mesure. Abraham ne s'est pas arrêté en cours de route. Abraham a mis son fils sur l'autel. Abraham a pris le couteau et il était prêt véritablement à offrir Isaac en sacrifice à Dieu. Dieu ainsi avait éprouvé le cœur d'Abraham. Il connaissait le cœur d'Abraham et le Seigneur l'a arrêté. Et le Seigneur connaît notre cœur. Il sait si nous sommes réellement désireux et volontaires à vouloir marcher dans cette vie nouvelle. Et laissez-moi vous dire que c'est ça le plein évangile. Le plein évangile, c'est une vie nouvelle, entièrement nouvelle en Jésus-Christ, et non pas une demi-mesure, non pas un demi-évangile, non pas un évangile qui se contente de dire « Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, pardonné de mes péchés ». Et puis, Seigneur, eh bien, écoute, fais avec le reste, parce que tu vois le monde dans lequel je suis. Eh bien, Dieu a la puissance de changer cela, mais il faut que nos cœurs y soient disposés. Il faut que nous soyons disposés. Et si nous avons cette disposition, alors tout comme Dieu a arrêté la main d'Abraham et lui a montré le bouc qui était là dans les buissons, en lui disant « voici, voici l'agneau », eh bien, cet après-midi, si vous avez la même disposition de cœur, en disant « Seigneur, je suis prêt à t'offrir ma vie », alors le Saint-Esprit va illuminer les yeux de votre cœur. Et il va vous montrer l'agneau, non pas l'agneau dans les buissons, mais l'agneau sur la croix, Jésus de Nazareth. Amen. Mais il va vous le montrer d'une autre manière. Il va vous montrer que vous êtes en lui sur la croix. Il va vous montrer qu'il y a 2000 ans, vous étiez déjà en Jésus. Et il va vous apporter cette connaissance que vous êtes déjà mort en lui. Romains 6:6, regardez ce texte qui nous apporte une connaissance. L'apôtre Paul écrit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. » Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose d'ancien? Est-ce que la conjugaison est au présent ou au futur ou est-ce qu'elle est au passé? Vous avez tous fait l'école primaire et le collège. Qu'avons-nous à faire ici? À un passé. Voilà quelque chose qui est fait. Notre vieil homme a été crucifié. Mais j'aime encore plus la manière dont Paul parle dans Galates 2:20. Nous l'avons lu tout au début. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai été crucifié. D'abord une connaissance, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Et ensuite une expérience. J'ai été crucifié avec Jésus. Et voilà, voilà la connaissance que je veux partager avec vous. Et voilà l'expérience que je prie, le Seigneur, que vous puissiez vivre maintenant. Et la conclusion, c'est que je suis déjà mort en Jésus. Ma délivrance, mon renouvellement sont déjà acquis. Je n'ai rien à ajouter. Mon vieil homme a été crucifié. Alors, je vais illustrer ça par rapport à nos péchés. Parce que la première partie, ça va être très simple. Parce que je suis convaincu que la plupart d'entre vous, vous croyez que Christ a porté nos péchés. Qui le croit ? Allez, on se réveille un petit peu. Qui croit que Christ a porté ses péchés ? Qui croit que Jésus a expié ses péchés ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est quelque chose d'ancien ? C'est quelque chose d'ancien, même de très ancien. Ça a plus de 2000 ans d'existence. Il y a 2000 ans que Jésus est mort à la croix. Mais c'est nouveau pour nous lorsque nous le réalisons. Même si c'est déjà ancien, mais au jour où nous le réalisons, ça devient nouveau. Et lorsque le Saint-Esprit illumine nos yeux, alors la puissance de Jésus devient active dans notre vie et nous sommes pardonnés, purifiés de nos péchés. Eh bien, c'est la même chose avec notre vieil homme. Laissez-moi vous dire que tout comme Christ a porté nos péchés, eh bien, Christ a aussi porté notre vieil homme. Il a porté ta vieille femme, pardonnez-moi, mesdames. Il a porté cette vieille nature dont je veux aujourd'hui me débarrasser définitivement. Christ l'a porté avec lui. Il a porté mes péchés, mais il a porté aussi mon vieil homme. J'étais en lui il y a 2000 ans. J'étais en lui à Golgotha. J'étais dans sa vie. Lorsqu'il est mort à la croix, je suis mort à la croix avec lui. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. C'est ce qu'il veut nous montrer. Nous n'avons pas, nous, à nous percer par des clous. Parce que Christ a déjà porté cela et nous étions avec lui. Et nous sommes donc morts. Et tout comme vous avez cru que Christ a porté vos péchés, et vous n'avez pas eu besoin de faire quelque chose en plus, mais vous avez cru, eh bien cet après-midi, croyez donc que Christ a porté votre vieille nature. Pour que vous en soyez libérés. Il est mort à Golgotha. Mais 3 jours plus tard, au dimanche matin, lorsque la pierre a été roulée, que le Saint-Esprit est descendu dans la tombe, qu'il a relevé Jésus d'entre les morts, il t'a relevé aussi. Il t'a relevé aussi pour que tu marches en nouveauté de vie. Alors si tu as cru que Christ a porté tes péchés, tu as donc goûté à la puissance du sang de l'agneau. Et maintenant, cet après-midi, goûte à la puissance de la croix en considérant comment Jésus est mort à la croix et toi, tu es mort en lui. Amen. Et puis finalement, je voudrais que nous retournions sur ce verset du début de notre message, Galates 2:20. Vous voulez lire avec moi si vous avez vos Bibles ? On va le commenter un petit peu, très rapidement. Peut-être, après avoir dit tout cela, nous allons lire d'une manière différente, le percevoir d'une nouvelle manière. Et je prie pour que cet après-midi, vous puissiez le percevoir avec une conviction du Saint-Esprit concernant votre vie. Voilà ce qui... L'apôtre nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, parce qu'il continue de vivre, comme nous continuons nous-mêmes de vivre dans notre chair, il dit ensuite, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans cette communion, je vis dans cette union avec le Fils de Dieu qui est mort à la croix. J'étais en lui et maintenant je vis en lui. Lui qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alors je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si je m'imagine que c'est par la loi, par les commandements, par les préceptes, par les règles, par tout ce que vous voulez que je vais pouvoir transformer ma vie, alors Christ est mort en vain. C'est pas vrai. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. La vie chrétienne victorieuse ne procède pas d'un combat, écoutez bien, contre la tentation et le péché. Ça, c'est la religion. Quelle que soit la religion. La vie chrétienne victorieuse procède d'une étroite relation, d'une communion avec Jésus. Et quand nous sommes en communion avec lui, nous sommes dans sa victoire. Nous sommes dans sa vie. Et c'est lui qui s'occupe du reste. Et plus nous serons intimes avec Jésus, et plus la vie de Jésus va remplir notre vie, et plus sa vie va nous fortifier, et plus ça deviendra difficile pour la tentation de nous atteindre, parce que nous serons forts. N'est-il pas écrit que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde ? Et plus Jésus sera vivant en nous, parce que plus nous serons morts en lui, et plus nous serons affranchis de la puissance du péché. Nous n'y aurons même plus goût, à condition de demeurer dans cette communion avec notre Seigneur. Et alors nous pourrons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je vis pour lui. Alléluia.